journée.
Bonjour. Les cantons et la Confédération les attendent chaque année avec impatience, les résultats de la BNS. Et mauvaise nouvelle, la Banque nationale a subi de lourdes pertes. Elle ne devrait donc pas distribuer d'argent aux collectivités publiques. Les détails dans un instant. L'économie suisse retient son souffle. Le couperet des droits de douane américains doit tomber avant demain matin. Pour la directrice de la Fédération patronale et économique fribourgeoise, cette incertitude est difficile à vivre, vous l'entendrez. Le Canada annonce à son tour sa volonté de reconnaître l'État de Palestine. Mais en fait, qu'est-ce qui définit juridiquement l'existence d'un État? Réponse dans ce journal. Dans ce journal aussi, une étude préoccupante sur le taux de microplastique dans nos maisons. Des tests de genre obligatoires pour les athlètes femmes. Et puis, reportage avec des bénévoles qui font les foins à la main pour préserver les narcisses. La musique, le son, ça nous procure des émotions, des sensations, ça nous rappelle parfois des souvenirs. L'exposition Afrosonica, paysage sonore au musée d'ethnographie de Genève s'intéresse justement au pouvoir du son. La commissaire de l'exposition est avec nous dans 20 minutes. Météo, pas mal de soleil autour du Léman, plus nuageux ailleurs, jusqu'à 25 degrés en pleine. On est ensemble pendant une demi-heure. Bienvenue. Et ce chiffre à la une, 15 milliards 300 millions de francs. C'est la lourde perte annoncée ce matin par la BNS, la Banque nationale suisse, pour le premier semestre de l'année. La faute en premier lieu à ses positions en monnaie étrangère. Bonjour Katia Scher.
Bonjour.
Les choses se sont gâtées au deuxième trimestre parce que les résultats des trois premiers mois de l'année étaient positifs.
Oui, on peut dire ça, hein, Pauline, parce que là on passe du noir au rouge, rouge vif même. Presque 7 milliards de bénéfices au premier trimestre, mais ce bénéfice a été gommé par les lourdes pertes d'environ 22 milliards d'avril à juin. Le calcul est donc vite fait, hein. C'est plus de 15 milliards de francs dans le rouge pour les résultats semestriels nets. La faute au dollar, un billet vert qui s'est fortement affaibli par rapport au franc. Et puis ces mouvements de change vont évidemment se répercuter aussi sur les placements en dollars avec une BNS qui détient pour environ 300 milliards de titres américains. Et comme l'or détenu par la BNS est lui aussi apprécié en dollars, eh bien même l'envolée des prix du métal jaune n'a pas vraiment compensé quoi que ce soit. Ça a juste permis de limiter les dégâts. Mais le dollar n'est pas le seul responsable. La force du franc se fait généralement sentir sur les résultats de la BNS en monnaie étrangère face à l'euro aussi. Raison pour laquelle les pertes de change sont particulièrement lourdes. Près de 44 milliards de francs sur les 6 premiers mois de l'année.
Et Katia, la BNS n'est pas la seule à faire la grimace.
Ah non, évidemment, parce que ces mauvais résultats pourraient avoir des répercussions sur les cantons. Vous l'avez évoqué, les économistes du BS le soulignaient il y a une semaine déjà, quand ils anticipaient très justement d'ailleurs des pertes entre 17 et 27 milliards au deuxième trimestre pour la BNS. Les caisses cantonales pourraient donc se voir privées de la redistribution d'une partie des bénéfices de la Banque nationale suisse.
Katia Scher de notre rubrique économique. Et l'économie suisse retient son souffle. Le couperet des droits de douane américains doit tomber avant demain matin 6 heures. Le président américain Donald Trump maintient la pression sur les entreprises suisses et cette incertitude est difficile à vivre, comme en témoigne Nadine Gobet. Elle est directrice de la Fédération patronale et économique fribourgeoise et conseillère nationale PLR.
Les entreprises retardent des décisions. Il y a des commandes qui sont annulées, donc c'est difficile de faire des prévisions. Mais je suis à ce stade plutôt confiante, même si je n'ai pas d'informations précises.
Vous êtes confiante pour quel taux de droits de douane? 10%?
Alors, tant mieux si c'est 10%. On a vu qu'il y a eu une annonce pour les pays de l'Union européenne à 15%. Donc, si on a 10%, on pourrait se réjouir. Mais c'est difficile de faire des pronostics sur le taux. Si c'est 15%, on serait au même niveau que nos concurrents. Ce serait, le cas échéant, un moindre mal.
Nadine Gobet est interrogée par Romain Carupt. Et la Corée du Sud dit avoir conclu in extremis un accord commercial avec les États-Unis. Il limite à 15% les surtaxes douanières sur la plupart de ses produits, au lieu des 25% que Donald Trump menaçait d'imposer. Taïwan dit aussi avoir trouvé un consensus sans fournir plus de détails. Et parlons maintenant des microplastiques. On en respire bien plus qu'on ne le pensait à la maison ou au bureau. Selon une étude française parue ce matin, les niveaux de ces particules dans l'air intérieur sont 100 fois plus élevés que ce qu'on estimait jusqu'à présent. Bonjour Benjamin Louis.
Bonjour Pauline, bonjour à tous.
On vous retrouve en direct de Paris. Ce qu'ont observé ces scientifiques, c'est une pollution invisible, omniprésente et aux effets encore mal connus.
Oui, ils ont fait une découverte inquiétante. Un adulte inhalerait chaque jour 68 000 microparticules de plastique et un enfant près de 47 000. C'est 100 fois plus que ce que l'on croyait jusqu'ici. Alors, selon l'étude de l'Université de Toulouse, publiée dans la revue PLOS ONE, les chercheurs ont analysé l'air de logements, de bureaux et de voitures et ils y ont trouvé des concentrations extrêmement élevées de particules PM10 qui sont issues des textiles, des meubles, des câbles ou encore des moquettes.
Et Benjamin, quel est le danger pour la santé humaine ?
Eh bien, ces plastiques minuscules peuvent pénétrer profondément dans les poumons, rejoindre la circulation sanguine, voire même atteindre certains organes. Les effets sur la santé restent à préciser, mais les auteurs de l'étude alertent sur des risques pour le système hormonal et un lien possible avec des cancers. Alors, comment est-ce que l'on s'en protège ? Eh bien, il n'y a aucune solution miracle, il faut aérer. Aérer qui reste le seul réflexe conseillé. Et puis enfin, ce constat dépasse largement la France. En Suisse, Greenpeace a récemment détecté des microplastiques jusque dans les crottes d'animaux sauvages, des chevreuils, des loups, y compris jusque dans les montagnes des grisons. Les scientifiques le répètent, la pollution plastique n'épargne plus aucun environnement, même les plus éloignés. Et c'est justement au siège des Nations Unies à Genève, dès le 5 août prochain, la semaine prochaine donc, que s'ouvrira le dernier round de négociation d'un traité mondial contre la pollution plastique, un accord que beaucoup espèrent historique.
Vos précisions, Benjamin Louis, en direct de Paris. Et dans le canton de Genève, un nouvel épisode dans la saga des fraudes électorales à Vernier. On l'apprend ce matin, le tribunal fédéral rejette l'effet suspensif du recours d'un citoyen de la commune. Anouk Pernet, on le rappelle, cet homme proche du candidat MCG malheureux Thierry Cerutti demande que le TF annule aussi l'élection de l'exécutif de la ville de Vernier.
Oui, car pour l'heure, seule l'élection au conseil municipal a été annulée après la découverte d'écritures similaires sur des centaines de bulletins. Alors pour les auteurs du recours, on ne peut pas exclure que la course à l'exécutif aussi ait été trafiquée puisque le matériel de vote se trouvait dans une même enveloppe au premier tour. Mais la justice genevoise avait conclu que l'élection de l'exécutif avait été régulière, d'autant plus qu'elle avait fait l'objet d'un deuxième tour, une décision qui n'a pas plu au recourant qui a donc saisi le tribunal fédéral et demandé l'effet suspensif, notamment pour empêcher la destruction du matériel de vote. Le TF estime aujourd'hui que ce n'est pas nécessaire, entre autres car le gouvernement genevois s'est engagé à ne pas détruire les bulletins tant que l'affaire ne sera pas définitivement tranchée. Le TF, tribunal fédéral, doit encore statuer sur le fond de ce recours.
Anouk Pernet, en direct de Genève. Et dans le canton de Vaud, l'association des cliniques ne veut pas de quotas pour les médecins spécialistes. Vaud Clinique recourt auprès de la Cour constitutionnelle. Elle demande l'annulation d'un arrêté du Conseil d'État. Le texte, entré en vigueur le 1er juillet, limite le nombre de médecins autorisés à pratiquer à la charge de l'assurance maladie. Selon une récente modification de la LAMAL, les cantons sont autorisés à limiter le nombre de leurs médecins remboursés pour freiner l'augmentation des coûts de la santé. L'association dénonce le non-respect de certains critères définis par la LAMAL pour encadrer ses limitations. Dans l'actualité internationale, le Canada annonce vouloir reconnaître l'État de Palestine au mois de septembre à l'Assemblée générale des Nations unies. Le pays imite la France et le Royaume-Uni. Pour Londres, c'est sous condition si Israël ne prend pas certaines mesures. Bonjour Mirona Coca-Cosma.
Bonjour.
Cette vague d'annonces soulève une question. Qu'est-ce qui définit juridiquement l'existence d'un État ?
Bon, le droit international se base en fait sur la Convention de Montevideo de 1933. Pour être considéré comme un État, il faut une population permanente, un territoire défini, un gouvernement et la capacité d'entretenir des relations avec d'autres États.
Et est-ce que la Palestine remplit ces critères ?
Bon, c'est là que ça se complique. Hein. Les Palestiniens ont une population et des institutions, mais le territoire est fragmenté entre la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est, et l'autorité palestinienne ne contrôle pas totalement ces régions, bien que ce gouvernement ne puisse exercer pleinement sa souveraineté en raison de l'occupation israélienne. Occupation israélienne reconnue comme illégale par la Cour internationale de justice, cela n'empêche pas l'existence juridique de l'État palestinien.
Et est-ce qu'il y a des obligations en matière de reconnaissance?
Non, le droit international ne force pas les États à reconnaître une entité. Par ailleurs, le droit à la souveraineté est absolu, il ne dépend pas du bon vouloir de l'adversaire, en l'occurrence l'État d'Israël. La Palestine est déjà reconnue par les trois quarts des États membres des Nations Unies, au moins 142 sur 193 pays membres.
Et la Suisse, quelle est sa position ?
La Suisse n'a pas reconnu officiellement l'État de Palestine, mais entretient des relations avec l'autorité palestinienne. Notre pays soutient la solution à deux États, mais estime que la reconnaissance doit servir de levier pour la paix en Suisse. Seul le Conseil fédéral a le pouvoir de reconnaître un État.
Et si on résume, Miruna, la reconnaissance est à la fois juridique et politique.
Exactement, il existe donc des critères juridiques, mais la décision reste un acte politique. Tant que les négociations n'aboutiront pas à une solution à deux États, la reconnaissance restera un sujet sensible qui se jouera entre droit et diplomatie.
Votre éclairage, Miruna Coca-Cosma. Dans l'actualité sportive, cette décision de la Fédération internationale d'athlétisme, les athlètes femmes devront faire un test de genre avant les compétitions. Alain Thévaud, la mesure entre en vigueur le 1er septembre.
Exactement, les concurrentes sélectionnées pour les mondiaux d'athlétisme à Tokyo qui auront lieu du 13 au 21 septembre devront subir un test unique afin de déterminer de façon fiable le sexe biologique. Ces tests seront supervisés, ils s'effectueront au moyen d'un prélèvement à l'intérieur de la joue ou d'une analyse sanguine. Pour protéger l'intégrité du sport féminin, a déclaré le président de World Athletics, Sébastien Coe. Je cite, il est très important pour un sport qui veut attirer plus de femmes pour qu'elles sachent qu'il n'y ait pas de tricherie.
Et Alain, clarifier l'accès aux compétitions féminines, c'est une priorité pour la nouvelle présidente du CIO, Kirsty Coventry.
Oui, protéger la catégorie féminine. Le sujet avait d'ailleurs agité le tournoi olympique de boxe l'été dernier au JO de Paris. Depuis fin 2021, le CIO laisse aux instances sportives le soin de fixer leurs règles, mais les membres ont convenu que le CIO devait jouer à l'avenir un rôle de premier plan à cet égard. Kirsty Coventry avait déjà annoncé cette intention lors de son élection en mars dernier. La réflexion concerne à la fois les athlètes transgenres et les sportives avec des différents de développement sexuel, alors que l'impact des caractéristiques de genre morphologique ou hormonal varie considérablement selon les disciplines. La présidente du CIO, ancienne championne de natation, veut placer les recherches scientifiques et médicales au cœur de la démarche et cette approche promet encore d'intenses débats tant les facteurs de la performance restent à élucider.
Alain Thévaud de notre rubrique sportive et un mot de natation aux mondiaux de Singapour. Le genevois Roman Mityukov a maîtrisé son sujet dans les séries du 200 mètres d'eau, sa discipline fétiche. Le médaillé de bronze olympique s'est hissé en demi-finale avec le troisième temps. Demi-finale cet après-midi. Et je vous emmène maintenant sur les hauteurs de la Riviera vaudoise. Des bénévoles se sont activés tout le mois de juillet. L'association Narcisse Riviera les a recrutés pour ramasser à l'ancienne les foins des prairies de Narcisse. Objectif, favoriser la reproduction de cette fleur menacée. Thibaut Clémence a rencontré aux Pléiades ces faucheurs en herbe.
Bonjour tout le monde, ça va? Vous êtes en forme aujourd'hui? On va râteler environ sur 1 mètre, 1,50 mètre, de manière à ce que le soleil puisse sécher ce qui était dessous. Quand on est beaucoup, vous verrez, ça va vite. Alors, au travail. Je m'appelle Robin Margui, je suis agriculteur de montagne. On attend donc le mois de juin que les narcisses soient mûres et puis ensuite on fait les foins. On passe juste avec la moto faucheuse sur un sentier et puis ensuite c'est le râteau et la fourche.
Des foins à l'ancienne, pas le choix avec des pentes à plus de 30 degrés. Des talus appréciés par les narcisses, un emblème en perdition et qui a besoin d'un terrain bien défriché pour refleurir chaque printemps.
Toi, tu pars par là-bas et puis moi, je vais là.
Isabelle Descoster, je suis membre du comité de l'association Narcisse Riviera. Notre agriculteur fauche et nous, on ratelle une fois que la graine est déjà tombée dans le terrain. Et ça permet d'améliorer la reproduction du narcisse.
Ce retour un peu au foin à l'ancienne, ça fait du bien?
Ah, énormément. On sent les odeurs du foin, le bruit que ça fait quand on le tire.
Ça va, vous tenez le rythme?
Oui, facilement.
C'est la première fois?
C'est la toute première fois, mais oui. Ça libère complètement, et l'esprit et le corps. On laisse aller l'imagination, on laisse aller la pensée, et puis finalement, c'est pas si pénible que ça.
Jusqu'à 20 bénévoles de tous âges viennent prêter main forte chaque jour en juillet dans les prairies des Avants et les Pléiades.
Moi, je m'appelle Lucille, et puis j'ai 10 ans. Et de rateler comme ça les foins, c'est chouette. Aussi, il y a des sauterelles.
Je peux vous poser une question indiscrète? Je vous demandais votre âge, madame.
J'ai 78.
Et quoi vous faites pour garder la niaque comme ça?
Ah, ça vient tout naturellement. Puis l'ambiance surtout. Tout ce monde qui se bouge, tout ça. Ouais, on a de la chance.
Et toute l'équipe, c'est la pause. Bien joué.
Le foin retourné, il faut attendre qu'il sèche. L'occasion de déguster tranches de tresse et sirop maison avant de partir botteler.
Bon rafraîchissement.
Le reportage de Thibaut Clémence. Et maintenant, suite de notre série sur la gastronomie espagnole, l'Espagne, premier producteur mondial d'huile d'olive. On retrouve notre correspondante Valérie Demont sur les collines d'Olivray de la province de Tolède pour découvrir ce qui fait le cœur de la cuisine espagnole.
Je suis habituée depuis toute petite à ce goût. La nourriture doit avoir le goût de l'huile d'olive.
Paloma et David vivent dans une petite ville, à Calpio de Tajo, à plus d'une heure de Madrid, où les oliviers s'étendent à perte de vue. Impossible de cuisiner sans huile d'olive pour Paloma.
Je n'ai vu personne dans ma famille cuisiner avec du beurre. Là, j'ai deux types d'huile d'olive et une autre de tournesol. L'une des huiles d'olive est plus douce. C'est un mélange de trois variétés d'olives. On l'utilise pour frire, cuisiner. Et ensuite, j'en ai une autre. Elle est plus spéciale, vierge extra à froid et beaucoup plus chère. Je l'utilise pour les aliments crus, dans une salade ou alors sur du pain et avec une tomate coupée. J'adore.
Cette huile spéciale dont parle Paloma se produit à une quinzaine de minutes sur les terres du domaine Casas de Waldo.
Je m'appelle Cristina Aizpun et je suis donc responsable commerciale du domaine.
Vale, je suis Enrique Vivas, responsable de qualité de...
Enrique Vivas, responsable de la qualité, surveille 700 hectares
d'olivrés.
Nous sommes le second producteur du pays. Dans la région de Castille-La Manche, la variété locale, c'est la cornicabra. Mais nous avons aussi la picuale et l'arbequina.
Ici, la récolte est précoce, un choix des producteurs. Dans le village où tout le monde ou presque travaille dans les oliverais, la récolte en octobre a surpris.
Donc on va démarrer aux alentours du 15 octobre. C'est vrai que dans la région, traditionnellement, la récolte se faisait plutôt en janvier.
Pourquoi vous faites aussitôt ?
Mais on va privilégier la qualité en détriment du volume et du rendement. Par contre, on va préférer cette qualité de cette olive plus verte qui a énormément de complexité, d'arômes.
Dans ce domaine, tous les champs sont irrigués au goutte à goutte.
On soumet l'olivier à un stress hydrique, oui, surtout à certains moments de la croissance de l'olive. Le fruit avec ce stress hydrique croît de manière plus contenue et cela nous permet d'avoir beaucoup plus d'arômes.
On se trouve au moulin, comme tu vois, on se trouve entouré de tous les oliviers. Cela nous permet par exemple d'amener le fruit qui vient d'être cueilli. En à peine 2-3 heures, l'huile est déjà extraite. Pensez à n'importe quel autre fruit que vous mangerez directement de l'arbre. Une pomme, un abricot, c'est clairement bien meilleur quand il vient d'être cueilli de l'arbre. D'ailleurs, nous,
la pâte d'olive sera malaxée pour en extraire ensuite l'huile à froid par centrifugation.
L'extraction à froid est reliée ou en rapport avec une huile de meilleure qualité, plus de complexité. On retrouve beaucoup plus d'arômes. On ne va pas tuer les arômes dans le même sens où on essaie de ne pas trop cuire nos légumes à la maison.
Entre la mise en bouteille et la préparation des commandes, on s'active. Ce producteur fait partie de la nouvelle génération qui met en bouteille et exporte un produit haut de gamme. L'Espagne s'était trop longtemps cantonnée à être le premier producteur mondial, vendant en vrac l'huile d'olive, sans être le pays qui la commercialisait.
Ça part en fait à environ 45 pays. Peut-être le plus lointain serait la Nouvelle-Calédonie. Un Français qui a ouvert une oléothèque, c'était assez rigolo.
Les trois variétés d'olivier donnent des huiles fruitées ou plus amères, en portant l'odorat vers des arômes d'artichaut, de tomate, de menthe ou d'amande verte.
Et on peut l'utiliser bien au-delà que simplement la traditionnelle salade de tomate. Mais essayez aussi sur des légumes, sur vos soupes, ça va changer. C'est presque comme rajouter un légume de plus. On n'a pas besoin alors d'en rajouter autant de sel.
De l'huile d'olive sur un bout de pain, c'est magique, non ?
Mais c'est magique, tout en simplicité. Ici, il y a plein d'usages qu'on ne peut pas imaginer. Nous, on utilise beaucoup l'arbequina pour les salades, les préparations à froid, mais même les desserts. Pourquoi pas un filet d'huile d'olive sur un dessert au chocolat ? C'est excellent sur du coulant et ça va très bien ensemble.
Le reportage de Valérie Demont, suite de notre série sur la gastronomie espagnole. Demain, on parlera des tapas. Et on vient de l'apprendre, en Ukraine, le Parlement vient d'approuver le rétablissement de l'indépendance de deux instances anticorruption. Leur révocation décidée la semaine dernière avait provoqué un tollé. Des manifestations avaient eu lieu dans tout le pays et l'Union européenne avait menacé de suspendre des aides à l'Ukraine dans l'attente de réformes. Et le message a été entendu. Un total de 331 députés sur le minimum de 226 requis ont voté en faveur du nouveau texte proposé par le président Volodymyr Zelensky. Et direction maintenant le Pérou, où des archéologues ont annoncé au début du mois la découverte d'une cité de plus de 3500 ans. Une ville marchande qui prospérait au pied des Andes à la même époque que les civilisations de Mésopotamie et d'Égypte. Martin Chabal, c'est une découverte majeure pour l'histoire du continent.
La ville de Pénico sort de la poussière. Après 8 ans de travail de recherche sous un soleil de plomb qui cogne sur les montagnes désertiques autour de la cité, les premiers touristes visitent Pénico. À première vue, ils ne sont pas tous emballés, comme Maria.
Je crois que moi, je préfère le paysage. Pour moi, ce sont juste des pierres.
Pourtant, Pénico montre bien plus qu'une place centrale en pierre et quelques édifices en ruine, comme nous l'explique Alexander Leon, guide touristique.
Pénico est l'héritage de la civilisation carale. Elle date de 1800 avant Jésus-Christ. Et c'était une cité d'échange entre deux vallées différentes.
Sous terre, des ossements de singes, des plumes de perroquets, des coquillages du Pacifique montrent que la ville était un lieu de rencontre entre le Pacifique, les Andes et l'Amazonie. Mais ce qui surprend les archéologues, c'est l'époque à laquelle cette cité a été construite. Ils savaient la civilisation carale sur le déclin à cause des changements climatiques sévères dans la région. Pourtant, c'est à ce moment précis que Pénico aurait été fondée. Pour Ruth Chadi, archéologue et grande spécialiste de la civilisation carale, Pénico a su s'adapter aux sécheresses.
À cette époque, il y avait beaucoup moins de glaciers, donc pas d'eau dans les rivières, donc moins d'agriculture. Et Pénico a été fondée après le début de cette crise climatique. Et ils ont continué la tradition de Caral sur le déclin avec un autre savoir-faire.
Pour Ruth Chadi, la ville de Pénico n'est pas seulement un monument historique de plus pour le Pérou et le monde. Cette découverte et les représentations de la sécheresse et du manque de nourriture prouvent à quel point le changement climatique affecte nos sociétés. Maintenant, cet éminent archéologue de 78 ans aimerait pouvoir aller plus loin, que cet afflux de touristes se traduise en moyens financiers, parce que sur place, les archéologues ont très peu de moyens. Ils espèrent que l'ouverture du lieu au public attirera l'attention du ministère sur leur découverte, car il reste encore beaucoup à découvrir sur cette civilisation millénaire.
Le reportage au Pérou de Martin Chabal.
Le 12-30, Pauline Rapa.
Quand vous écoutez de la musique ou des sons pendant un concert, dans la rue ou dans la nature, ça vous procure sans doute des émotions, des sensations, ça vous rappelle peut-être des souvenirs. L'exposition à voir en ce moment au MEG, le musée d'ethnographie de Genève, s'intéresse justement au pouvoir du son, comment il peut nous relier, nous humains, et connecter les époques. Cette exposition s'appelle Afrosonica, paysage sonore. Et Madeleine Leclerc est conservatrice au département d'ethnomusicologie au MEG. Elle a imaginé cette exposition avec l'artiste DJ et producteur Mo Laoudi, on l'écoute.
Cette exposition se base et a été construite autour notamment des collections du musée d'ethnographie, des archives sonores, des collections d'instruments de musique. Mais on a voulu les remettre en discussion avec des artistes issus du continent africain et de la diaspora. Ce qui fait qu'on a 33 artistes qui participent à cette exposition et avec comme objectif ce fil rouge que vous venez d'évoquer sur le pouvoir vital et relationnel du son.
Et dans l'exposition Madeleine Leclerc, on peut notamment écouter ceci. Madeleine Leclerc, on entend un lamellophone. Oui. Qu'est-ce que c'est ?
C'est un petit instrument qui consiste à avoir une série de languettes fixées sur une caisse de résonance ou sur une planche et qui est plutôt un instrument d'intimité. C'est un instrument qui est joué dans plusieurs régions d'Afrique, notamment en Afrique centrale, avec lequel le musicien joue des rythmes et des cycles rythmiques qui lui permettent de faire voyager sa pensée. On appelle ces types de musique des musiques à penser, et c'est un répertoire assez remarquable puisque c'est plutôt des musiques de méditation qui sont mises en avant avec ce type d'instrument.
Et l'exposition Afrosonica Paysage Sonore se déploie dans un grand espace en 4 parties thématiques: vibrer dans un paysage sonore, musique de l'intime, l'appel des ancêtres et connexion espace-temps. Vous avez voulu éviter la chronologie ou la géographie, c'était pour dire que la musique transcende les époques et les régions.
Oui, c'est ça. C'est musique africaine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu abstrait parce que c'est des musiques qui sont faites sur le continent africain ou par des musiciens africains ou de la diaspora. C'est un thème qui est pas très pertinent en comparaison de cette réflexion qui consiste à observer les pouvoirs de la musique, de se reconnecter avec soi-même, avec sa propre intériorité, avec sa généalogie, se connecter avec les gens qui sont autour de nous par la danse, le chant et différents rituels, se connecter également avec l'environnement, le milieu dans lequel on vit.
Et justement, pour parler de ce pouvoir de la musique, en plus de ces 4 sections thématiques, il y a un espace convivial. Dans l'exposition, on peut voir des instruments de musique, des vidéos, des livres, un jukebox aussi. Et vous en parliez, des installations sonores qu'on peut écouter seul ou collectivement. Et ça, par exemple. Alors là, Madeleine Leclerc, ça peut paraître un peu abstrait pour les gens qui nous écoutent. C'est une installation sonore qu'on voit au musée d'ethnographie de Genève dans l'expo Afrosonica Paysage Sonore. C'est un lithophone, donc des pierres sonores, c'est ça?
Exactement. C'est une installation, c'est un très, très joli projet qui est fait par l'artiste Tarek Atoui, qui fait une réflexion depuis plusieurs années sur la sonorité des matériaux, sur la sonorité des instruments de musique. Et il a ce grand projet qu'il appelle la Reverse Collection, où l'idée c'est de partir du son pour essayer de trouver et de construire des objets qui vont être aptes à reproduire ce son. Les lithophones, c'est des plaques de pierre qui sont frottées. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est le frottement d'éléments métalliques qui sont sur les pierres. Ça peut être aussi des pierres qui sont frappées. Et c'est des instruments qui font tout de suite penser au caractère très ancien des musiques sur le continent africain. Là, les pierres qu'on a entendues, ce sont des pierres volcaniques. Et on tenait à voir cet objet-là dans l'exposition pour rappeler également la grande universalité du phénomène musical.
Et cette installation sonore faite de plaques de pierre, elle fait aussi écho à la thématique explorée par le musée d'ethnographie de Genève avec ce nouveau cycle d'exposition pour réenchanter la terre. La musique, elle a ce pouvoir-là?
Ah oui, la musique a le pouvoir de partager des émotions, de les transmettre, d'aller chercher profondément dans les mémoires, mais pour aller peut-être vers le futur. Et c'est vrai que ces dernières années, le musée a fait une réflexion importante et très nécessaire sur son histoire, sur la pertinence de la présence de toutes ces collections dans un musée d'ethnographie et sur le rôle et les missions. Donc l'approche décoloniale qui a été abordée dans plusieurs expositions, l'anthropocène également. Mais ce cycle peut-être était nécessaire pour poser les bases de réflexions qui vont aller maintenant dans un sens qui est de se poser la question comment nous on peut faire des propositions pour réenchanter notre rapport au monde et réenchanter la Terre, peut-être.
Donc cette exposition Madeleine Leclerc, elle nous invite à nous poser des questions et puis elle nous invite aussi à prendre le temps, à expérimenter. Il y a par exemple un endroit où on peut s'allonger pour ressentir des vibrations. Mmh. C'est important d'impliquer le public et de l'inviter à être dans l'instant présent.
Oui, et c'est important également de rappeler que le son, c'est de la matière qui vibre. En fait, c'est de l'air ou c'est des matériaux qui sont mis en vibration. Et la sensation de ressentir les ondes sonores directement par le corps, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. C'est une exposition qui est plutôt sensorielle.
C'était Madeleine Leclerc, entretien diffusé une première fois au mois de mai. L'expo Afrosonica Paysage Sonore est à voir au musée d'ethnographie de Genève jusqu'au 4 janvier. La météo de ce jeudi, pas mal de soleil malgré quelques passages nuageux plus nombreux le long du Jura et des Préalpes. Les cumulus se développent en montagne au fil des heures et de rares averses possibles, surtout sur les reliefs. Il fait jusqu'à 25 degrés en plaine.
Yalla ! En avant !
Bonjour, c'est Sidney Fierro. Chaque dimanche matin, je vous invite à parcourir de nouveaux horizons en quête du sacré. La musique sacrée que nous connaissons, bien sûr, celle qui nous est familière, mais aussi celle d'autres cultures, au-delà des religions. Dans Matine, on parle des grandes épopées, des petites histoires d'hommes et femmes qui cherchent la lumière. On voyage dans le monde en quête de notre humanité, le tout en musique, bien sûr. Matine, c'est tous les dimanches de 7h à 9h sur RTS Espace 2.
La vie à peu près, Florence Grivel.
Autrice française multiprimée, éditrice, Brigitte Giraud est dans La vie à peu près de cette semaine. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Brigitte Giraud construit depuis 30 ans ce chemin d'écriture très personnel. De 2010 à 2016, elle dirige la collection de littérature La Forêt aux éditions Stock, où elle publie notamment Fabio Viscogliosi, Dominique A, Sébastien Berlendis, Mona Thomas ou Anne Savelli. Et la musique dans tout ça, véritable colonne vertébrale de la construction de ses goûts. À ce propos, elle dit « L'homme qui allait devenir l'homme de ma vie, Claude, était musicien ». Et il est devenu critique musical. Il m'a fait passer de la variété française à la musique rock punk, new wave, la plus éblouissante. Après la mort de mon compagnon, j'ai été dans l'impossibilité d'écouter de la musique durant 2 ou 3 ans. Petit à petit, le lien à la musique est revenu et je continue d'explorer tout ce qui se passe dans la scène plus contemporaine, comme si j'étais, à mon tour, devenu l'autre. Brigitte Giraud a donc travaillé avec des compositeurs comme Albin de la Simone ou Fabien Viscogliosi. Elle nous raconte ici ce que ces rencontres ont apporté à son travail. Ce 4e épisode est intitulé par Sylvie Tanette « Le sens du collectif ».
Bonjour Brigitte Giraud.
Bonjour.
Alors après avoir parlé de vos débuts en littérature, de votre art romanesque, j'aimerais dans cette émission qu'on aborde votre rôle de passeuse et de découvreuse et votre sens de collectif. Mais d'abord peut-être juste revenir sur les maisons d'édition où vous avez publié, parce qu'après un premier roman chez Fayard, vous avez rejoint les éditions Stock, qui étaient dirigées à l'époque par Jean-Marc Roberts. Vous nous avez parlé de lui la dernière fois. J'aimerais juste qu'on s'y attarde, parce que justement, je me demande qu'est-ce que ça a eu comme conséquence dans votre travail. C'est pas anodin de publier à l'époque chez Stock, il me semble.
Ouais. Alors le premier roman qui était publié chez Fayard, qui était très 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 loin de ce qui est devenu Fayard aujourd'hui, c'était déjà Jean-Marc Roberts qui avait créé la collection Bleue.
Ah,
collection de littérature bleue. Et ensuite Jean-Marc est parti chez Stock, donc je l'ai suivi chez Stock comme pas mal d'écrivains qu'il avait déjà publié à ce moment-là. Et ensuite j'ai publié avec lui jusqu'à sa mort et même au-delà. Lui, il est décédé en 2014 et j'ai encore fait un livre chez Stock. Le lien avec Jean-Marc Roberts, c'était un lien extrêmement fort parce que mon premier roman, je l'avais envoyé par la poste à quelques maisons d'édition, dont à l'époque Fayard où officiait Jean-Marc Roberts. Et c'était lui qui avait été le premier à me passer un petit coup de fil. En fait, il y avait 2 éditeurs qui m'avaient appelé. Il y avait Irène Lindon, qui à l'époque était chez Minuit, et puis Jean-Marc Roberts. Et Jean-Marc m'avait proposé un rendez-vous dans son bureau le lendemain à Paris. Ça avait été très rapide. Et en fait, en habitant Lyon, j'avais pris un train le lendemain et j'étais arrivée à son bureau. Je me rappelle, c'était 11h du matin, je me rappelle bien. Et je ne connaissais rien au monde de l'édition à ce moment-là. Alors la personne qui vous a choisi, forcément, vous avez tendance à être proche de cette personne, d'autant quand le manuscrit arrive par la poste. Jean-Marc, c'était quelqu'un qui était capable, pendant l'été, de revenir 2 fois pour ouvrir la boîte aux lettres de chez Stock pour voir ce qui était arrivé comme manuscrit. Et il est faux de penser que les manuscrits qui arrivent par la poste n'ont pas de chance. Les éditeurs s'intéressent beaucoup à ce qui arrive par le biais d'inconnus. Et ensuite, avec Jean-Marc, notre relation a été assez intense parce que, comme je l'ai dit lors de la précédente émission, le jour de l'accident de Claude, ce 22 juin 1999, j'étais chez Stock. J'étais en train de faire mon service de presse de Nico. J'étais ce jour-là avec Jean-Marc Roberts. Et ça a créé quelque chose d'assez fort entre nous parce que parce que le lendemain, quand il m'a appelé pour savoir si j'étais bien rentrée, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Et à partir de ce moment-là, il a été peut-être doublement attentif. Et quand on se voyait avec Jean-Marc, on se voyait pas souvent, peut-être une ou deux fois par an, on déjeunait et on parlait beaucoup de ce qu'on avait lu, de nos lectures. T'as lu quoi, j'ai aimé ça. On parlait de musique. Tiens, écoute ça, tiens, tu devrais lire ça. Et le lien s'est créé de façon très, très, j'allais dire, ordinaire et transparente et amicale, en habitant à 450 kilomètres l'un de l'autre.
Et puis l'aventure, elle s'est poursuivie autrement, puisque Brigitte Giraud, vous avez dirigé une collection chez Stock, et donc vous êtes devenue éditrice. Comment ça s'est passé ?
Eh bien justement, c'est Jean-Marc Roberts qui m'a proposé de créer une collection, parce qu'il avait remarqué que je lisais beaucoup, que ce qui m'intéressait autant que l'écriture, c'était de lire ce que font mes contemporains. Ce qui m'intéresse quand même dans l'écriture contemporaine, c'est de savoir comment font les autres pour vivre, comment ils se débrouillent eux avec ce truc bizarre qu'est la vie, l'existence. Et c'est ce que je cherche dans l'écriture des autres, de voir comment eux, ils traversent les épreuves qu'ils sont en train de traverser, comment ils tombent amoureux, comment ils se remettent de l'amour déçu, comment ils traversent la guerre, comment ils traversent l'exil, comment ils traversent le deuil, comment, Dieu sait que les épreuves qui sont données aux êtres humains sont multiples et variées. Et l'écriture rend compte de ça, comme le cinéma, comme... Et on parlait beaucoup de ça avec Jean-Marc, et à un moment, il me propose, il me dit « Mais est-ce que ça te dirait de créer une collection, de devenir éditrice ?» Alors sur le coup, je ne suis pas tout à fait sûre de ça, parce que je me dis que ça va m'obliger à passer dans une autre dimension, et j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Est-ce que je vais savoir faire ? Est-ce que je ne vais pas... me perdre, est-ce que je ne vais pas perdre mon lien à l'écriture? Et là, Jean-Marc me dit quelque chose dont je me souviendrai toujours. Il me dit, tu sais, il y a quelque chose d'immense, d'immensément excitant. C'est quand tu reçois un manuscrit, tout à coup, que tu es surexcité, que ce manuscrit est totalement dingue, que tu ne l'attendais pas, évidemment, et que là, tu vas prendre ton téléphone, que tu vas appeler la personne, et que tu vas lui dire pourquoi tu as aimé et pourquoi tu auras envie de publier. Et là, je le revois me dire cela et me transmettre ce qui a dû donner du sens de façon très intense à son existence. Et là, je comprends ce dont il veut parler. Donc, je finis par dire oui au bout de quelques semaines. Et là, il me dit, mais tu sais, tu pourras faire ce que tu souhaites, tu pourras faire entrer chez Stock une autre voix, une autre, puisqu'il y avait la bleue, il n'y avait pas besoin de quelqu'un d'autre en fait. Jean-Marc voilà, a publié dans la collection bleue des écrivains passionnants comme Christine Angot, comme Eric Reinhardt, comme Eric Fay, comme Nina Bouraoui, comme enfin tous les écrivains qu'il a publiés n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres. C'est pour ça qu'il disait que la bleue était une série et plutôt qu'une collection. Mais il a quand même publié des voix de la littérature contemporaine qui, moi, m'ont passionnée. Et là, il me dit, mais tu peux faire entrer d'autres, voir ta sensibilité à toi, y compris des paroles de chansons. Parce qu'il sait que je m'intéresse beaucoup à la musique. Il y a quelque chose de très contemporain dans la musique. Il me dit ça. Et je me dis que là, il a compris ce qui peut me donner un élan avec un E majuscule.
Mais là, du coup, on découvre une autre facette de votre personnalité, il me semble, Brigitte Giraud, à la fois comme éditrice, mais aussi parce qu'ensuite, ou à peu près à ce moment-là, je ne sais plus quand ça a démarré, vous dirigez le programme du Festival de Bron dans la banlieue lyonnaise, donc il y a d'un coup une attention portée aux auteurs et aux autrices, une volonté de faire surgir peut-être des nouvelles plumes. Et je ne sais pas très bien comment vous les choisissez, il me semble que vous avez porté une attention à des auteurs qui n'étaient pas forcément du Sérail, à des gens qui vivaient en province. Alors, je n'ai pas regardé tous les gens que vous avez publiés dans votre collection qui s'appelait La Forêt, mais il y en a deux, trois qui me viennent à l'esprit. Il y avait Hubert Mangarelli qui vivait je ne sais plus où, mais...
dans la montagne au-dessus de Grenoble.
Voilà, dans la montagne. Il y a Sébastien Berlindis, qui est un auteur que j'adore et qui vit à Lyon, comme vous. Donc, voilà, il y avait
Fabio Biscogliosi.
Voilà, qui vit à Lyon aussi, il y a un gang des Lyonnais.
Lyon, mais ça c'est un peu un hasard. Mais il se trouve que j'avais un manuscrit de Fabio Viscogliosi qui a été le premier auteur que j'ai publié dans La Forêt, avec ce livre magnifique au titre merveilleux qui est Je suis pour tout ce qui aide à traverser la nuit. Aujourd'hui, Fabio publie aux éditions Actes Sud. Et Sébastien Berlandis aussi est chez Actes Sud. Ces deux auteurs ont trouvé une autre maison d'édition. Et c'est vrai que je suis... Alors, au départ, ce qui n'est pas évident quand on commence à créer une collection, c'est comment faire en sorte que les manuscrits vous parviennent. Et finalement, le premier livre de Fabio va susciter des envois de manuscrits et je vais recevoir... À l'attention de l'édition de la collection La Forêt, de plus en plus de manuscrits. Je vais publier très peu de textes, hein, ça va être 2 à 3 textes par an. C'est pas du tout le rythme d'une maison d'édition. Moi, j'ai pas du tout cette ambition-là. Je veux rester quelqu'un qui écrit, qui publie ses propres textes, et puis je ne veux publier que ce qui me semble nécessaire. Voilà, indispensable. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est des voix contemporaines. C'est des voix un peu singulières, c'est-à-dire des auteurs, c'est la plupart du temps des auteurs qui publient leur premier livre, donc qui vont peut-être devenir les écrivains de demain. Ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de dénicher des voix nouvelles, des écritures nouvelles, des univers nouveaux, et ça c'est absolument passionnant. Et c'est assez rare, c'est très très rare de recevoir un manuscrit qui tout à coup va vous mettre dans un état, de l'état dont parlait Jean-Marc Robert, tout à coup vous allez être surexcité. Et ce qui est très intéressant, c'est de recevoir un manuscrit dans lequel on va déceler le livre en puissance, parce qu'il est très rare de recevoir un manuscrit qui est déjà totalement abouti. Mais ce qui est très intéressant, et ce que j'ai adoré faire, c'est le accompagner l'auteur pour le conduire à un retravail qui va lui permettre d'être le plus lui-même et le plus dans la singularité de son écriture. Et je pense par exemple à quelqu'un que j'ai publié qui s'appelle Dominique A.
J'allais vous en parler.
Racontez-nous. Dominique Anne, de son nom, de son vrai nom, A-N-E, et son nom de scène, c'est Dominique A.
Voilà, donc auteur, compositeur, interprète, Dominique
voilà,
A.
Voilà, qui a maintenant 30 ans de scène et 30 ans de publication d'albums de musique. Pour moi, c'est un très très grand musicien, si ce n'est l'un des plus grands musiciens de langue française. Alors, Dominique A, c'est un petit peu différent, parce que c'est le seul des écrivains que j'ai publiés à qui j'ai demandé un texte.
Mais comment vous le connaissiez ?
Je le connaissais parce que... On a une histoire assez étonnante avec Dominica, c'est-à-dire que lui me lisait, il lisait mes romans, et je ne le savais pas, et moi j'écoutais ses albums, et lui ne le savait pas. Et un jour, un journal qui s'appelle Télérama, je reçois un coup de fil d'Emmanuel Tellier, qui s'occupait de la rubrique chansons et rock à Télérama, m'appelle et me dit il y a un musicien qui est Dominica qui aimerait que vous puissiez écrire sur lui dans Télérama. C'est-à-dire qu'Emmanuel Tellier, avec Dominica, cherchait une idée un peu nouvelle pour raconter le nouvel album de Dominica. C'était Auguri à l'époque, en 2003. Et là, il me propose de passer une journée avec Dominique A à Paris. C'était un concert au Café de la Danse à l'époque. Et moi, je ne savais pas que Dominique A lisait mes livres. Et il avait proposé à Emmanuel Tellier une idée. Et à partir de ce moment-là, c'est le début d'une histoire amicale. Et quand j'ai la possibilité de créer La Forêt, je sais qu'un jour, j'oserais demander un texte, peut-être à Dominica, dont j'ai toujours pensé que les paroles de ses chansons laissaient supposer qu'il y avait un écrivain en lui. Parce que les paroles de ses chansons sont totalement sublimes, extrêmement singulières, extrêmement perturbantes, troublantes. On ne sait pas exactement de quoi ça parle, mais on sent qu'il y a un univers qui foisonne. Voilà, donc il me donne un texte qui va devenir Y revenir et qui est un magnifique récit autobiographique sur son enfance et son adolescence dans la ville de Provins, ville terrifiante avec ses forteresses et ses champs de betteraves à perte de vue qui va faire naître en lui, entre autres choses, la mélancolie qui va abreuver ensuite sa façon de décrire et de créer sa musique avant qu'il arrive à Nantes.
Mais vous avez d'autres collaborations, il me semble, avec Dominique A. Vous avez fait des spectacles où vous lisez des textes et ils chantent des chansons. Je ne sais pas comment vous avez mis au point ça.
On avait créé une lecture musicale il y a fort longtemps avec Dominique A. Ça a été la première lecture musicale, mais qu'on n'a pas tournée, qu'on n'a pas vraiment formalisée. Et puis ensuite, la véritable, on va dire, lecture musicale a été créée avec Fabio Viscogliosi, justement. Autour d'un texte qui a été publié qui s'appelle Avec les garçons. Voilà, donc là, j'ai vraiment écrit Avec les garçons, qui a été publié en édition J'ai lu, directement en poche. Non, il a été publié avant, chez un petit éditeur qui s'appelait, qui n'existe plus, Alphabet de l'espace. C'était des fragments d'écriture pour lesquels je savais qu'il devrait y avoir de la place pour la musique. Et j'avais demandé à Fabio Viscogliosi s'il voudrait bien être le musicien qui créerait une musique pour ses textes avec les garçons.
Mais qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant qu'écrivaine et éditrice, de travailler avec des musiciens et de combiner votre travail avec le leur? Qu'est-ce que ça change?
Parce qu'en fait, je crois que j'ai une part manquante qui est flagrante et dont j'ai fini par prendre conscience, c'est que c'est le manque, enfin c'est pas le manque de la musique, mais j'ai vécu très longtemps avec quelqu'un qui était musicien, qui dirigeait, qui était journaliste musical, journaliste rock, qui dirigeait la discothèque municipale à Lyon, l'homme avec qui j'ai vécu 20 ans. Et la musique, c'était le lien aussi à cet homme. Moi, j'ai un grand regret, mais on peut pas tout faire. Et mon grand regret, c'est de pas avoir été musicienne. Et j'ai pourtant pris des cours de guitare. J'étais pas très douée pour ça. Et je sais pas comment aujourd'hui, je m'en veux de pas avoir persévéré. Je m'en veux de pas avoir étudié le clavier. Je m'en veux de pas être devenue. Voilà. Donc, j'ai passé une grande partie de ma vie avec des musiciens. Donc finalement, moi en écrivant des textes, eux avec la musique, en combinant tout ça, j'ai travaillé avec Albin de la Simone, j'ai travaillé avec Laetitia Chérif, que j'adore, avec Bastien Lallemand, avec Sébastien Souchois, avec tout un tas de musiciens. Et finalement, c'est une vie partagée avec des musiciens. Mais cette chose-là n'a jamais été ni envisagée, ni préméditée, ni ça s'est fait, on va dire naturellement, mais depuis fort longtemps. Depuis très longtemps, au moment où les lectures musicales n'étaient pas quelque chose qui se faisait beaucoup.
Mais qu'est-ce que ça apporte à l'écriture ? Ça vous oblige à travailler différemment, j'imagine. De travailler avec quelqu'un. Normalement, un écrivain, il est tout seul dans sa chambre, et là, c'est différent.
Ouais. Alors, je combine un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y a d'une part l'écriture de mes livres, de mes romans, etc. Ça, c'est une écriture solitaire, qui ne concerne que moi, et qui se fait dans le silence et dans le sur le long terme, et voilà. Après, il y a l'écriture avec un musicien qui fait que l'écriture se fait autrement parce qu'elle doit, laisser la place à l'autre, et donc elle intervient sur une forme plus brève où le sens de ce qu'on écrit passe peut-être après le rapport à la sonorité ou le rapport au rythme. Quand je travaille avec un musicien, il peut y avoir aussi un roman qui va être adapté, c'est-à-dire qui va être découpé. Un découpage qui va être fait pour être dit sur une scène avec un musicien. Et là, ça veut dire que quand il s'agit de lire à voix haute, le lien à la sonorité et la justesse devient premier. Donc la plupart du temps, ça m'oblige à réécrire, parce qu'on n'est pas dans la même dynamique. Donc ça veut dire qu'il faut être capable de resserrer, être capable d'inverser des mots dans la phrase, parce que là, il faut que ça sonne, et il faut que ça se réponde, et il faut qu'il y ait de la place pour l'autre. Et on n'est plus du tout dans un long cours d'écriture solitaire, littéraire. C'est une autre expérience. J'écris aussi des paroles de chansons avec certains musiciens, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est très difficile d'écrire des paroles de chansons, parce que c'est pas de la littérature, c'est pas de la poésie. Il faut être capable de se dépouiller de quelque chose, je ne sais pas de quoi, mais j'adore faire ça.
Et le fait de travailler la programmation du Festival de Bron, qu'est-ce que ça aussi, qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi vous l'avez fait? Tous ces auteurs et autrices que vous avez de fait côtoyés toutes ces années-là?
Et invité pendant très longtemps, puisqu'en fait, j'ai collaboré pendant quasiment 30 ans à ce festival, qui vient de mettre un terme, voilà.
Malheureusement.
On vient de mettre un terme à ce festival. En fait, c'est une façon de prolonger l'expérience de la lecture. Lire est quelque chose qui est indispensable à ma vie et à ma survie. Et Dieu sait, ça permet d'avoir un socle et de la ressource pour tous les aléas de l'existence, y compris le plaisir, qui fait partie des aléas de l'existence. Mais le fait de lire un auteur et d'avoir un grand enthousiasme pour un livre, je suis pas toujours très enthousiaste, mais il m'arrive d'avoir des enthousiasmes très forts, il y a une nécessité après de prolonger cet enthousiasme. Parce que de terminer le livre et puis de que ça se termine comme ça, c'est fort dommage. Alors on peut en parler aux amis, on peut en parler autour de soi, on peut. Mais là, ce que j'ai trouvé, moi, tout à fait excitant et vraiment palpitant, c'est de d'écrire à l'auteur et de lui dire ce qu'on a aimé et pourquoi, et puis d'inviter l'auteur, de le rencontrer, et de faire surtout rencontrer l'auteur avec un public, et de faire rencontrer l'auteur avec un autre écrivain. Moi, ce qui me paraît extrêmement intéressant, c'est que quand je lis, je fais souvent des associations d'idées, je me dis « Ah, mais ça, ce livre, c'est incroyable comme il répond à cet autre livre. » La plupart du temps, j'ai envie de faire se rencontrer, j'aime bien faire se rencontrer les gens. J'aime bien même avec mes amis de me dire « Ah tiens, lui, il faudra qu'il rencontre tel ami, on s'entendre. » J'aime beaucoup ça, que tel musicien rencontre tel autre musicien. J'aime bien, alors c'est pas marier les gens, c'est pas ça, mais j'aime bien des œuvres qui résonnent, j'aime bien les résonances. Et le Festival du Livre de Bronze, c'était vraiment des regards croisés, souvent deux auteurs ensemble, qui peuvent, parce qu'en fait, quand on est deux, en matière de littérature, le fait de rencontrer un autre écrivain, moi je le vois aussi en tant qu'écrivaine, quand je suis associée à un autre écrivain, ça permet de décaler quelque chose dans son univers. Ça permet d'aller sur le terrain de l'autre. Et c'est bien plus enrichissant que d'être confronté à sa propre écriture. Ça oblige d'aller chercher plus large et plus loin. Et c'est quand même... la vie ne c'est pas nouveau d'être vécu, mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est l'altérité. C'est ce qui est différent de soi, ce qui résonne, mais ce qui est différent, c'est ce qui permet de survivre.
Oui, justement, c'est pour ça que je me demande s'il n'y a pas quelque chose au fond de politique, pas au sens de politicien, je cherche le mot depuis tout à l'heure, mais on va dire politique, dans votre façon de travailler, c'est-à-dire non pas de considérer que les écrivains sont des génies, chacun étant enfermé chez soi, mais plutôt que la pratique artistique et la pratique littéraire, c'est un lieu d'échange, quoi, finalement, ouais.
Ouais, de créer, alors c'est pas de créer de petites communautés, parce que... Là, déjà, je me méfie du mot, c'est même pas ça, mais c'est de rendre vivant. De rendre vivant, de transmettre, de faire que ça se transmette, de faire qu'une parole soit possible. Je pense aussi aux rencontres que j'aime beaucoup faire auprès de lycéens. Je me dis que, parce que vous avez utilisé le mot politique, et je me dis qu'en ce moment, il y a besoin plus que jamais, j'allais dire de prendre soin, c'est-à-dire de transmettre quelque chose. Peut-être par le biais de la littérature, mais ça peut être par d'autres biais, c'est-à-dire d'être auprès de jeunes gens, de les écouter, de prendre du temps avec eux, de leur faire comprendre qu'ils ont quelque chose, qu'ils ont une force en eux. Ça tient à pas grand-chose. Quand j'étais lycéenne, moi je dois beaucoup à notamment une personne qui était ma prof de philo, qui s'appelle Jacqueline Pissard, que j'ai revue il n'y a pas très longtemps, qui un jour, en cours de philo, en fait, on était en 1978, c'était l'année où le pétrolier, la Moco Cadiz, avait fait naufrage au large des côtes bretonnes. C'était la première marée noire à laquelle moi j'étais confrontée, ma génération était confrontée. C'était un drame, c'était le premier drame écologique douloureux. Et je m'étais dit que pendant les vacances de Pâques, ça m'aurait fait un bon prétexte pour partir loin de chez moi. Et il y avait tout un mouvement qui consistait à embrigader des jeunes gens pour aller nettoyer les côtes bretonnes. Et je m'étais dit, génial, je vais partir 15 jours nettoyer les côtes bretonnes. Et en cours de philo, je ne sais plus pourquoi, à un moment, je parle de ça à la prof de philo qui devait nous demander peut-être ce qu'on allait faire pendant nos vacances de Pâques. Elle était incroyable, justement, politiquement parlant. Et là, elle dit, mais non! Ce n'est pas à vous, jeunes gens, d'aller nettoyer les côtes bretonnes, parce que il se trouve que c'est un pétrolier qui fait naufrage. Il se trouve que c'est, je crois que c'était Total. Et donc là, elle parle de responsabilité. Et c'était un discours politique qui n'était pas un discours politique au sens politique, politicien, mais c'était au sens de la morale, au sens de la politique, au sens de la philosophie, au sens de l'éducation et au sens de qu'est-ce que c'est que d'élever des jeunes gens et de leur donner une vision du monde et de les accompagner. Ça, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Alors j'étais un peu perdue parce que je me suis dit zut, qu'est-ce que je vais faire pendant mes vacances de Pâques, et finalement j'ai passé le BAFA, j'ai fait autre chose et ça m'a beaucoup servi de m'occuper de jeunes gens qui venaient de, c'était en Ardèche.
Donc,
et
c'était un diplôme, le BAFA était un diplôme français.
C'était un diplôme pour faire des colonies de vacances, et c'était des jeunes gens qui venaient des banlieues d'Aubervilliers. Et moi j'avais 18 ans et c'était des jeunes gens qui avaient 16 ans et ils étaient bien plus costauds que moi et bien plus, mais ça m'a enseigné énormément de choses. Et cette force du collectif, je crois qu'elle vient de là aussi, parce que dans ce cours de philo, la prof dont je viens de parler, à un moment, elle nous faisait faire le cours à nous. Elle nous disait, bon, alors le cours sur le temps, moi, j'avais été volontaire pour faire le cours sur le temps. C'est pour ça aussi qu'après, je peux écrire Jour de courage. Et je peux me mettre à la place de ce lycéen qui va être désigné par sa prof pour faire un exposé en cours d'histoire. J'ai décalé un peu, j'ai transposé un peu. Et ça veut dire que cette prof qui nous proposait de faire... nous autres lycéens, le cours, faire un cours, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà qu'il faut potasser beaucoup. On n'était pas obligé, hein, fallait être volontaire. Ça veut dire qu'il faut être capable de se mettre à la place de l'autre. Ça veut dire qu'il faut prendre en considération les autres. Il y a le lien à la transmission. Il y a la peur d'être regardé. J'ai trouvé ça, mais remarquable. Et aujourd'hui, quand je vais rencontrer des lycéens, je me dis qu'on a... Moi, je dois tout à l'école républicaine. S'il n'y avait pas eu l'école, je ne sais pas vraiment ce qui serait passé, j'en sais rien. Mais l'école m'a donné tout ce que je n'avais pas ailleurs. Et aujourd'hui, je me dis que la moindre des choses, c'est de donner un peu de temps pour des lycéens qui parfois sont bien perdus, qui eux-mêmes sont dans des banlieues où ils sont un peu parfois laissés pour compte. Je me dis, s'il y en a un seul dans une classe, chez qui l'adulte présent va lui faire comprendre qu'il a peut-être une force en lui pour décaler un peu quelque chose, ou pour se mettre à ouvrir un livre, aller voir un film, aller marcher dans la nature, aller marcher dans la montagne, ou aller, je sais pas, faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait parce que sa famille peut pas lui proposer, ou parce que son environnement peut pas lui proposer. Il faut y aller.
Merci Brigitte Giraud. On arrivera demain à votre Goncourt qui vous a été attribué en 2022 pour Vivre Vite. Alors, votre choix musical aujourd'hui, évidemment, c'est Dominique A. Dites-nous, quelle chanson?
Ah, c'est Le Courage des Oiseaux.
Et pourquoi celle-là?
Le Courage des Oiseaux, parce que ça a été un choc, vraiment un choc, un des grands chocs musicaux. C'est sur son premier album qui s'appelle La Fossette. C'est révolutionnaire. Ça tient à trois fois rien. Il a composé ça tout seul dans sa chambre. Et c'est vrai que ça fait écho à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire une jeune personne qui est tout seul dans sa chambre, qui bidouille avec des sons. Et parce qu'il est dans un rapport de solitude, un rapport de mélancolie, qui va être capable d'aller chercher au fond de lui. C'est sublime. Et c'est aujourd'hui, j'arrive même plus à l'écouter tellement ça me bouleverse, parce que c'est lié aussi à toute une jeunesse et un lien amoureux, et c'est lié à plein de très belles choses de l'existence.
Dieu que cette histoire finit mal, on n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne ton dos contre mon dos. Que vois-tu? Je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue. sans tête. Peut-être.
Dominique A, Le courage des oiseaux, un choc musical pour Brigitte Giraud, qui trouve cette chanson révolutionnaire. Brigitte Giraud, que nous rencontrons cette semaine au fil de sa vie à peu près. Demain, dans le dernier épisode, nous parlerons Goncourt. C'est une proposition de Sylvie Tanette. La vie à peu près, c'est une coproduction Daniel Éveillé et Florence Grivel, assistée d'Audrey Zano, réalisée par Sandro Lichy. Bonne suite de journée sur RTS Espace 2 et à demain, il est 15h.